Dans ce premier exposé, je ne vais pas vous parler des mathématiques à proprement parler, mais nous allons parler des mathématiciens certainement et de leur cerveau. Il y a une boutade qui dit que le mathématicien, qu'est-ce que c'est que le mathématicien? C'est une machine à transformer du café en théorème. Alors, c'est une boutade évidemment, mais elle a quelque chose de vrai. C'est vrai que si on est matérialiste, il est clair que l'activité mathématique est le résultat d'un organe biologique. Et donc, in fine, d'une activité, d'une organisation moléculaire, cellulaire dans le cerveau humain. Et le cerveau des mathématiciens fascine depuis longtemps. On se demande comment une organisation cellulaire, comment un réseau de neurones, comment un imbroglio de synapses peuvent générer quelque chose d'aussi abstrait que la pensée mathématique et comment on peut générer des vérités mathématiques à partir d'une organisation biologique. Alors, c'est de ça que nous parlerons ce soir. Et je voudrais entrer dans le vif du sujet avec la première diapositive. En la faisant avancer. On va passer tout de suite à la suivante. Ça n'a pas l'air de marcher, cet engin-là. Donc je vais vous laisser passer les diapos, peut-être. Voilà. Alors, il est clair que lorsqu'on pense aux bases cérébrales de l'arithmétique ou des mathématiques, immédiatement, certains pensent que la solution va se trouver dans le cerveau des grands mathématiciens. Et en particulier, il y a un mythe qui fait d'ailleurs partie des mythologies de Roland Barthes, qui est le cerveau d'Einstein, que l'on va ressortir de son bocal périodiquement avec de nouvelles révélations sur l'origine du génie mathématique. Alors ici, c'est la dernière publication en date sur ce sujet. Il s'agit d'un travail qui est paru l'an dernier dans la prestigieuse revue Lancet, qui concerne l'organisation anatomique des sillons dans le cerveau d'Einstein. Vous voyez en haut le cerveau d'un sujet normal. Et en bas, le cerveau du célèbre physicien. Et on est censé voir. Le pointeur n'a pas l'air de fonctionner, je m'excuse. J'ai quelques ennuis techniques. Vous y arrivez? Non, écoutez, c'est pas grave. On pourrait servir d'un simple bâton. Voilà, peut-être que ça marche là. Voilà. Alors en bas, vous avez donc le cerveau d'Einstein. Et en haut, vous avez le cerveau d'un contrôle, parmi plusieurs qui ont été choisis pour cette étude. Et alors, on est censé voir plusieurs choses. D'abord, on est censé voir que la région pariétale tout entière est plus grande chez Einstein. Il est clair qu'il y a un certain ratatinement du cerveau qui est dû au fait qu'il a été préservé pendant une très longue période ici. Et là, il était photographié à la sortie de la boîte crânienne, il s'est un peu affaissé. Donc, c'est extrêmement difficile de faire de telles mesures. On est censé voir également que la région qui est en gris ici, qui est l'opercule pariétal, n'est pas présente chez Einstein. Et je vous laisse juger de la difficulté qu'il y a à faire ce type d'assertion. Je voudrais dire tout de suite que je considère que ce type de recherche, qui d'ailleurs ici est classifié comme une recherche historique, hein, c'est un département of medical history, je considère que ce type de recherche est évidemment excessivement anecdotique et ce n'est pas ce type de recherche qui vont apporter des révélations sur le lien entre l'organisation biologique et la pensée mathématique. Il est extrêmement prématuré, dans le cadre de nos techniques actuelles, de vouloir faire un lien direct entre la présence de tel ou tel talent chez tel ou tel sujet et une organisation biologique. C'est une forme de réduction extrême que je récuse. D'ailleurs, si l'on peut passer à la diapositive suivante, la preuve très directe que ce type de recherche ne conduit pas à grand-chose nous est fournie par ce document qui a un siècle, qui déjà à l'époque nous faisait exactement le même genre de comparaison. Vous avez à gauche le cerveau de Gauss. C'est plus Einstein, mais Gauss, un autre très grand mathématicien, et à droite, celui d'un ouvrier allemand, dont on ne nous dit pas exactement comment il a été choisi. Et là, on est censé voir que le cerveau de Gauss est extrêmement plus plissé. On espère que le dessinateur n'a pas à tricher trop, mais le cerveau de Gauss serait beaucoup plus plissé que celui de l'ouvrier allemand standard. Vous voyez qu'on n'a pas progressé du tout dans le domaine de la compréhension de l'anatomie du grand mathématicien. Et les recherches que nous conduisons au service hospitalier Frédéric Joliot à Orsay, paradoxalement, essaye de regarder les bases cérébrales des mathématiques sans étudier le cerveau des mathématiciens. Ça peut paraître paradoxal, mais l'idée, c'est que finalement, si l'on regarde les capacités tout à fait basiques du cerveau humain, nous sommes tous capables d'un début de mathématiques. Dans notre culture, actuellement, tout le monde a une certaine éducation mathématique, tout le monde maîtrise des concepts de base des mathématiques, et en particulier, tout le monde maîtrise le concept de nombre. Et ce que je vais vous décrire aujourd'hui, ce sont des recherches qui essayent de comprendre comment le concept de nombre, qui est un des éléments fondamentaux, au fondement finalement des mathématiques, vient au cerveau, comment il est représenté, ce que nous savons dans ce domaine. Et nous verrons que finalement, dans ce domaine, nous avons tous une intuition mathématique, qui n'est pas dépourvu d'intérêt. Si l'on regarde la diapositive suivante, je voudrais faire un parallèle entre l'organisation de cette représentation cérébrale des nombres et ce qu'ont dit les grands mathématiciens sur la nature de leur intuition mathématique. Il y a deux choses qui reviennent souvent dans l'introspection des grands mathématiciens. La première, c'est la notion de pensée sans langage, qui est exprimée tout à fait clairement ici par Einstein dans une lettre qu'il écrit à Adamard. Il dit « les mots et le langage, écrits ou parlés, ne semblent pas jouer le moindre rôle dans le mécanisme de ma pensée. Les entités psychiques qui servent d'éléments à la pensée sont certains signes ou des images, plus ou moins claires, qui peuvent à volonté être reproduits ou combinés. » Donc la notion qu'il y a pensée sans langage. Eh bien, vous verrez que dans les expériences que nous conduisons sur la représentation des nombres, bien qu'il s'agisse d'une pensée mathématique beaucoup plus élémentaire, il y a là aussi pensée sans langage, et on peut démontrer que dans le cerveau, les aires et les représentations qui sont exploitées pour l'intuition des nombres ne sont pas des aires codées où les nombres seraient codés sous forme linguistique. Le deuxième élément, c'est le rôle de l'inconscient. Et là aussi, beaucoup de mathématiciens et beaucoup de scientifiques en général ont souligné l'importance du traitement inconscient dans la découverte scientifique, et en particulier Henri Poincaré a souligné que certaines de ses découvertes étaient dues à un processus inconscient. Il a dit « ce qui vous frappera tout d'abord, ce sont les apparences d'illumination subite, signe manifeste d'un long travail inconscient. Le rôle de ce travail inconscient dans l'invention mathématique me paraît incontestable. » Alors, vous voyez les termes de Poincaré, cela me paraît incontestable. Évidemment, ce type de données fondées sur l'introspection des mathématiciens est à prendre avec un grain de sel, puisqu'il s'agit simplement du mathématicien qui pratique l'introspection. Pouvons-nous, d'un point de vue empirique, avec l'aide des neurosciences cognitives et de l'imagerie, prouver qu'il existe une forme de traitement inconscient dans le cerveau, dans le domaine mathématique? C'est ce que nous essaierons de faire dans la deuxième partie de l'exposé. La diapositive suivante vous montre comment nous sommes capables, avec l'imagerie cérébrale, de mesurer l'état d'activité du cerveau. C'est un très bref résumé. En haut, vous avez, on imagine, l'état d'une petite portion du cerveau dans un état de repos, et en bas, lorsqu'il s'active. Les neurones entrent en activité et consomment de l'énergie, consomment du glucose, et il y a un mécanisme de couplage qui est encore mal connu, mais qui est extrêmement utile pour l'imagerie, qui fait que lorsqu'un réseau de neurones entre en activité, quelques secondes plus tard, le débit sanguin va augmenter. On voit que les capillaires ici se dilatent et le débit sanguin augmente. Alors c'est ce mécanisme d'augmentation du débit sanguin qui nous permet de mesurer l'activité neuronale. Avec l'IRM par exemple, ou avec la caméra positron qui est un peu plus ancienne, on ne mesure pas directement l'activité neuronale, mais on mesure l'augmentation du débit sanguin qui en est consécutive. Il se crée ici un flot de sang qui est chargé d'hémoglobine, et ce qu'on est capable de voir, c'est finalement le fait que la déoxyhémoglobine, c'est l'hémoglobine qui n'est pas chargée en oxygène, fuit le tissu, et donc les propriétés magnétiques de ce tissu sont modifiées, ce qu'on est capable de mesurer avec la technique d'IRM, c'est-à-dire d'imagerie par résonance magnétique. Donc sans entrer dans le détail, voyons sur la diapositive suivante à quoi ressemble cette machine d'IRM. Ici, vous avez une photo de l'IRM à 3 Tesla qui est installée à Orsay. Dans cet IRM, il y a plusieurs caractéristiques qui sont intéressantes. D'abord, il y a un champ magnétique très intense qui est présent. Évidemment, on ne le voit pas sur la photo, mais ce champ magnétique contraint de façon considérable les expériences qu'on est susceptible de faire, puisque dans ce champ magnétique, on ne peut pas introduire un seul objet ferreux, il va s'envoler dans le champ et se comporter comme un projectile. On ne peut pas non plus introduire d'électronique qui perturberait le fonctionnement de la machine et qui elle-même pourrait être détruite. Alors on arrive à résoudre ce type de problème en utilisant des matériaux uniquement non magnétiques, mais vous imaginez que ça pose de sérieuses contraintes. Une deuxième contrainte est une contrainte d'espace. Vous voyez qu'ici le sujet est allongé, sa tête va venir être insérée dans cette antenne ici, et le tout va être inséré dans le tube de l'imageur. On voit bien que les contraintes stériques sont importantes. Malgré tout, on arrive à introduire dans cette antenne ici un miroir, qui permet au sujet de voir la sortie de l'aimant, et à la sortie, nous pouvons projeter par un écran d'ordinateur des stimuli, par exemple des nombres, et vous allez voir que nous pouvons faire des calculs à un sujet dans cette machine. Alors, la machine génère donc des signaux électromagnétiques qui nous permettent de mesurer le phénomène de résonance magnétique et donc l'activation cérébrale. La diapositive suivante vous montre le type d'expériences et de phénomènes qu'on va étudier. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'intuition numérique? Eh bien, je veux parler de choses aussi simples que des calculs comme des petites additions, comme vous avez ici sous les yeux. Supposez, par exemple, que je vous présente 4 plus 5 et que je vous donne comme choix possible le nombre 8 et le nombre 3. Vous voyez bien que les deux sont faux, mais il y en a un qui est tellement faux, le 3, qu'on peut le rejeter tout de suite. Et le 8, finalement, on peut le sélectionner sur la base d'une approximation du calcul, sans avoir à faire le calcul exact. Ce qui se passe, c'est qu'on a l'air d'avoir, et ce que j'appelle intuition des nombres, un espèce de sens des distances entre les nombres qui nous permet très rapidement et sans faire le calcul de rejeter des résultats qui sont manifestement faux. Ça se manifeste aussi dans le langage qu'on utilise pour parler des nombres, puisqu'on utilise des métaphores spatiales, en parlant par exemple de nombres qui sont trop loin. On peut imaginer que si je vous propose 4 plus 5 égale 3, vous allez me dire « oui, mais le 3 est trop loin, il est trop petit, peut-être allez-vous même dire « il est trop à gauche ». Eh bien, c'est ce type de métaphore spatiale qui constitue ce que j'appellerais l'intuition numérique, la capacité d'approximer un calcul en le posant, si vous voulez, sur une espèce de ligne numérique dans laquelle les nombres occupent des positions spatiales. Alors, ce type de calcul est un calcul finalement approximatif qu'il faut clairement distinguer d'une autre forme de calcul qui est le calcul exact. Lorsque je vous donne 4 plus 5 et que je vous donne le choix entre 9 et 7, vous voyez qu'ici les deux résultats sont proches du bon résultat, donc une simple approximation ne suffit pas, mais pour choisir le 9, il faut être capable de faire le calcul tout à fait exact. Ce que nos recherches ont cherché à savoir, c'est s'il y avait bien une distinction entre ces deux sortes de calculs. Alors pour le savoir, nous avons donc soumis dans des blocs différents de quelques essais, nos sujets installés dans la machine d'IRM à ce type de problème. Un bloc d'opérations approximatives et un bloc d'opérations de calcul exact. Vous voyez que dans les deux cas, les opérations à faire sont les mêmes. Mais le sujet est prévenu que dans cette situation-ci, il lui suffit d'approximer pour choisir le 8 et rejeter le 3, alors que dans la situation de gauche, il est prévenu qu'il a besoin de faire le calcul exact. Quels sont les résultats? Eh bien, les résultats sur la diapositive suivante vous montrent que nous observons des activations de deux circuits qui sont extraordinairement distincts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de recouvrement entre les deux tâches. Il est clair qu'il y a un circuit commun entre les deux tâches. Mais il y a aussi des différences, et ce sont ces différences qui sont indiquées sur cette diapositive. Vous voyez ici en jaune les régions qui ont été trouvées plus activées lorsque la personne fait une approximation que lorsqu'elle fait un calcul exact, et inversement, en bleu, les régions qui sont plus activées par le calcul exact que par l'approximation. Il y a donc dissociation du même calcul entre deux circuits différents suivant la manière dont on effectue ce calcul. Et je voudrais attirer votre attention particulièrement sur cette coupe ici du cerveau. C'est le cerveau qui a été coupé de façon horizontale. Vous avez l'avant de la tête ici, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et on se situe ici dans les régions pariétales, donc situées à gauche et à droite de la tête. Vous voyez qu'il y a des activations tout à fait bilatérales dans ces régions. Ce sont ces régions que l'on retrouve maintenant systématiquement dès qu'une personne effectue le moindre calcul, dès qu'elle comprend en fait un nombre, dès qu'elle lui associe une quantité. On a l'impression que ces régions sont associées au traitement des quantités, et il est intéressant de voir que c'est un circuit en général, le circuit du lobe pariétal, qui est impliqué dans la transformation de l'espace, et dans la représentation de l'espace dans le cerveau. Si vous naviguez dans l'espace, par exemple vous trouvez votre chemin dans Paris, si vous effectuez une rotation mentale pour imaginer à quoi ressemblerait cet objet si je le voyais sous un autre angle, eh bien toutes ces opérations-là vont activer la région pariétale en général, et il est intéressant de voir que les nombres, finalement, font appel à un circuit qui est complètement en dehors des aires du langage, dans ce cas-ci, mais qui fait partie des régions associées au traitement de l'espace. Ça rejoint cette idée, donc il y a une espèce de ligne numérique qui nous donne les relations de proximité entre les nombres. Alors, inversement, si vous regardez le circuit bleu, et en particulier cette région frontale inférieure gauche, ici, vous voyez que c'est très latéralisé à l'hémisphère gauche, et nous avons suggéré qu'il y a là un lien très direct entre le calcul exact et le langage. Le calcul exact, en particulier dans le cas de toutes petites additions comme c'est le cas ici, repose principalement sur la mémorisation de tables que nous avons apprises à l'école, des tables arithmétiques. Et ces tables arithmétiques, nous les apprenons sous une forme linguistique. Nous devons apprendre par cœur la séquence de mots qui leur correspond. Et on a l'impression que le circuit correspondant dans le cerveau est un circuit qui fait appel finalement aux aires du langage dans l'hémisphère gauche. Si on peut revenir très brièvement, à la diapositive suivante, à la précédente, pardon, je voulais donc revenir sur le fait que, vous voyez ici que le calcul qui est présenté au sujet est exactement le même. Et en fait, il s'agit ici d'une présentation séquentielle sur l'écran, donc pendant 400 millisecondes, donc 4 dixièmes de seconde, la personne voit exactement le même stimulus sur l'écran, les mêmes chiffres, la même addition, et pourtant elle doit faire des opérations différentes. Est-ce qu'on peut mettre en évidence que pendant cette période de 400 millisecondes, il y a déjà dans le cerveau des circuits différents qui sont allumés? Pour le faire, on doit faire appel à une autre technique, et on peut avancer maintenant de deux diapositives. Cette autre technique, vous voyez ici, est un petit peu plus rustique et décorative. Il s'agit de la méthode d'enregistrement des potentiels évoqués. On va disposer sur le crâne de notre sujet un certain nombre d'électrodes, ici il y en a 128, qui chacune sont capables de capter le tout petit signal électrique qui se mesure en microvolts, qui est lié à l'entrée en activité des réseaux de neurones sous-jacents. Vous savez que les réseaux de neurones fonctionnent par transmission électrique puis chimique à la synapse. Eh bien, cette activité électrique du neurone, on va être capable de la mesurer de l'extérieur et d'avoir au niveau du scalp un reflet qui est cette fois-ci tout à fait instantané. C'est-à-dire qu'on peut le suivre millisecondes par millisecondes. Contrairement au débit sanguin qui met plusieurs secondes à s'établir, celui-ci est instantané et va donc nous donner des informations sur la dynamique. Alors nous avons refait la mesure, le calcul exact et l'approximation avec cette technique, et la diapositive suivante vous montre très brièvement, sans entrer dans le détail, les résultats qui sont que l'on peut dire avec cette méthode, en suivant dans le temps donc le décours de l'activité électrique du cerveau, qu'il y a divergence, vous voyez ici, entre les deux courbes bleues, c'est-à-dire le calcul exact, et jaune, l'approximation. Cette divergence, on peut en faire des cartes, qui sont des cartes au niveau du scalp, ici, des cartes de voltage, en microvolts. Et ces cartes nous disent qu'à 232 millisecondes exactement après avoir vu l'addition, il y a déjà une différence entre les deux sortes de calculs. Et il y a une deuxième différence qui se voit à 280 millisecondes. Donc, dans cette période où la personne voit exactement le même calcul, mais sait qu'elle va le faire de façon différente, on peut déjà mettre en évidence l'entrée en activité des deux circuits. Et vous voyez qu'on a une latéralisation à gauche, toujours au niveau de la région frontale inférieure, alors que dans le cas de l'approximation, vous avez au contraire une activité bilatérale de la région pariétale. Donc on retrouve grosso modo les mêmes localisations, avec évidemment une précision moindre, parce qu'on se situe au niveau du scalp et pas au niveau d'une technique tomographique, mais on retrouve les mêmes activations avec une dimension temporelle qui nous dit que les stratégies sont déjà différentes. Alors, quel type de conclusion peut-on tirer de ce type d'expérience? La diapositive suivante vous montre que nous sommes aux antipodes d'une technique, d'une hypothèse plutôt, qui était proposée il y a déjà 150 ans et qui est à l'origine de l'expression la bosse des maths, c'est la phrénologie. La phrénologie supposait que des grandes opérations comme la compétence mathématique allaient être localisées dans le cerveau à une petite région donnée. Vous avez ici des illustrations des différentes facultés qui étaient postulées par la phrénologie. On peut distinguer même l'amour de la progéniture ou de sa famille, des choses comme ça. Et la bosse des maths, la fameuse bosse des maths, elle est située ici, à tout à fait arbitrairement, au coin de l'œil. On supposait que l'étendue de cette région allait se traduire par une bosse à la surface du scalp qui permettait de mesurer directement la compétence mathématique. Alors, nous sommes évidemment aux antipodes de cette théorie, puisque la recherche moderne, sans nier qu'il y a des localisations cérébrales, montre bien qu'il ne s'agit pas d'une région qui travaille dans le calcul, mais d'un circuit, et même de plusieurs circuits, suivant la nature de l'opération qui est faite. Donc, toutes les compétences ne sont pas regroupées dans un circuit donné, mais il y a distribution, et c'est collectivement, par l'activité collective de 10 ou 15 régions, que le cerveau va arriver à faire un calcul. Alors, dans ce circuit, bien entendu, on peut distinguer des spécialisations locales. Et la diapositive suivante vous montre un schéma, un petit peu complexe, je l'avoue, mais néanmoins extrêmement simplifié, de la nature des opérations qui sont réalisées en différents points. Vous avez ici l'hémisphère gauche du cerveau, avec l'avant et l'arrière, et voilà la région pariétale, très schématiquement, hein, dont on parle, dont on pense qu'elle est impliquée spécifiquement dans la présentation des quantités, des grandeurs des nombres. Cette région serait interfacée avec d'autres aires cérébrales qui sont impliquées, elles, dans la reconnaissance des symboles des nombres. Par exemple, lorsque vous voyez un chiffre arabe, eh bien, ce sont les régions occipitales puis occipitotemporales de la face ventrale du cerveau qui vont être impliquées dans la reconnaissance du chiffre, la forme du chiffre. Et c'est seulement une fois que la forme de ce chiffre sera reconnue qu'on pourra transmettre cette information à la région pariétale qui lui associera une quantité particulière et une place dans l'espace des nombres. De la même manière, si vous entendez un mot, ce sont les régions qu'on appelle périsylviennes de l'hémisphère gauche qui vont être impliquées dans le traitement du langage. Il y a tout un réseau, à nouveau, qui est distribué ici et qui va permettre éventuellement de communiquer avec la représentation des quantités. Ce qui est intéressant, c'est que ce réseau linguistique, il va servir à d'autres types d'opérations mathématiques, dont en particulier le calcul exact. Si vous devez retrouver que 3 fois 9 fait 27, par exemple, on le connaît tous sous forme d'une petite phrase très simple qu'on a apprise à l'école, 3 fois 9, 27, ça sort très facilement, eh bien, c'est un système de boucles cortico-sous-corticales impliquant les mots, plutôt que le sens, qui va être impliqué dans cette récupération. Et c'est un circuit donc très différent de ce qui va être impliqué, par exemple, si vous devez faire 7-2. 7-2, personne ne le connaît par cœur. Tout le monde doit faire une espèce d'opération quantitative, comprendre le sens des quantités associées, et c'est probablement dans ce cas-là la région pariétale qui est impliquée. Donc différents circuits, chacun avec sa spécialisation, et la preuve de l'implication du langage dans le calcul exact et de sa non-implication dans le calcul approximatif, nous l'avons eue en collaboration avec des chercheurs de MIT en étudiant le cerveau des bilingues et le comportement des bilingues. Peut-être y a-t-il dans cette salle certaines personnes qui ne sont pas nées en France et qui ont appris l'arithmétique à l'étranger, ou peut-être certains d'entre vous ont fait l'expérience de partir très longtemps à l'étranger et de devoir faire de l'arithmétique dans un pays étranger. Même si on devient extrêmement bilingue et très à l'aise dans une langue étrangère, on s'aperçoit que lorsqu'on doit faire des calculs exacts, eh bien très spontanément, on revient à la langue maternelle dans laquelle on a appris l'arithmétique et on se surprend à devoir marmonner dans la langue d'origine dans laquelle on a appris l'arithmétique. Eh bien, nous avons pu montrer par une expérimentation psychologique que cela était vrai uniquement pour la tâche de calcul exact. Donc si vous apprenez des tables exactes, c'est le cas, vous avez un coût à changer de langue. Par contre, ça n'est pas du tout vrai pour l'approximation. C'est-à-dire si je vous apprends à approximer et je le fais dans une langue donnée, si maintenant je passe à vous poser les questions dans une autre langue, il n'y a absolument aucun coût, il n'y a pas de ralentissement notable pour changer de langue lorsqu'il s'agit de faits approximatifs. Donc il y a dépendance du langage dans le cas du calcul exact, indépendance du langage dans le cas du calcul approximatif. Alors je voudrais passer maintenant à la deuxième partie de mon exposé qui concerne le calcul inconscient. Je voudrais pouvoir vous démontrer que conformément à l'intuition de Poincaré, non seulement il y a un traitement non linguistique de l'information mathématique dans le cerveau, mais ce calcul peut être totalement inconscient. Et pour ce faire, nous avons pratiqué des expérimentations qui font appel à ce qu'on appelle les présentations subliminales des nombres, c'est-à-dire qu'on est capable de présenter des nombres extrêmement rapidement sans que vous les voyez. Alors cette diapositive explique le paradigme expérimental, mais avant de vous l'expliquer, je voudrais vous présenter sur l'ordinateur, si on peut avoir la présentation sur ordinateur, je voudrais vous présenter une illustration très concrète du type de présentation qu'on utilise pour faire ces images subliminales. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'écran d'ordinateur, s'il vous plaît? Voilà, je vais le basculer. Voilà, tout à fait. Alors, allons-y. Alors, la démonstration que vous avez sous les yeux n'est pas exactement la même que celle de l'expérience que je vais vous écrire, mais elle en illustre le principe. Et il se peut qu'elle soit imparfaite parce que le projecteur qui est utilisé ici n'a peut-être pas exactement les mêmes caractéristiques physiques que celui qu'on utilise dans l'expérimentation. Mais si vous regardez attentivement cet écran, vous devez voir apparaître par moment des mots. J'espère que c'est le cas. Là, il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup. Avez-vous vu des mots? Oui? Parce que là, il semble que nous soyons dans une période où il n'y en a pas beaucoup, alors je suis mal placé pour les voir. Certains d'entre vous ont vu 5 ou 7. Ah, voilà. Très bien. Très bien. Alors, les mots que vous voyez sont présentés pendant la durée exacte de 29 millisecondes. Donc, ils sont présentés pendant un temps très court. Mais, ils sont entourés de blancs, extrêmement brefs. Et c'est ça qui fait que vous les voyez. Maintenant que vous en avez vu plusieurs, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous avez jamais vu un nombre impair? Un nombre pair, pardon. Non? Alors, si vous n'avez jamais vu de nombre pair, vous avez subi ce phénomène donc de masquage et de présentation subliminale, puisque dans le déroulement du programme ici, il y a autant de nombres pairs que de nombres impairs. Il y a exactement les noms de nombres pairs et impairs de 1 jusqu'à 10. Simplement, ce qui fait que vous ne voyez pas les nombres pairs, c'est qu'eux sont masqués, ils sont présentés pendant la même durée, 29 millisecondes, mais au lieu d'être entourés de blancs très brefs, ils sont entourés de ces masques qui sont constitués de rectangles aléatoires et de losanges aléatoires. Alors, ce type de présentation donc, sert de masque. Le mot apparaît sur votre rétine, mais étant entouré dans le temps de ces présentations aléatoires, eh bien, il vous empêche de les voir, il masque la perception consciente. La question, c'est est-ce que ces mots que vous êtes obligé de me faire confiance sont présents dans l'écran? Est-ce que ces mots sont traités par le cerveau? Jusqu'où vont-ils dans le cerveau? Est-ce qu'on peut suivre leur activation par les méthodes d'imagerie cérébrale? Alors, nous allons revenir aux diapositives pour essayer de vous démontrer cela. Voilà donc le paradigme que nous avons utilisé, qui est un tout petit peu différent. On va présenter donc sur un écran d'ordinateur, lors d'un essai donné, une série temporelle très rapide de stimuli, parmi lesquels il y a un nombre qu'on voit très clairement, parce qu'il est présenté pendant une durée de 200 millisecondes. C'est ici, par exemple, le chiffre 9. Et on va demander au sujet de dire si ce chiffre 9 est plus grand ou plus petit que 5. Okay, il y a deux boutons, un pour dire plus grand, l'autre pour dire plus petit. À son insu, on va précéder la présentation de ce nombre de celle d'un autre nombre, par exemple ici le 6. Et ce 6, lui, va être présenté très brièvement. Il va être masqué par ces chaînes de caractères qui viennent juste avant et juste après au même point sur l'écran. Il va être rendu invisible. Alors comment savons-nous qu'il est invisible? Évidemment, on peut demander aux gens et les gens nous disent « certes, je ne l'ai pas vu ». Bon, c'est un comportement purement introspectif. On essaye d'avoir une information un petit peu plus objective et ce que nous avons fait, c'est simplement de faire varier la durée de présentation de ce nombre et de forcer les gens à essayer de deviner de quel nombre il s'agit. Donc sans simplement accepter qu'ils nous répondent « je n'ai rien vu », on leur dit ben, « essayez de deviner, c'est soit 4, soit 1, soit 6, soit 9, dites-nous lequel c'est ». On s'aperçoit que lorsque les durées de présentation excèdent une durée de l'ordre de 60-70 millisecondes, les sujets commencent à avoir un tout petit peu d'informations, font un petit peu mieux que le hasard dans ce jeu de la devinette. Mais dès qu'on descend à des durées de l'ordre de 40 millisecondes comme ici, la performance est nulle, c'est-à-dire que le sujet, même en se forçant, n'a aucune information sur le nombre caché. Et donc on est vraiment dans une situation de présentation inconsciente. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation? Passons à la diapositive suivante. Et nous verrons que l'un des premiers effets que nous avons étudiés, c'est simplement, est-ce que le nombre qui est caché vote pour la même réponse que le nombre qui suit? Vous voyez que le sujet doit dire si ça c'est plus grand ou plus petit que 5, et le nombre qui est caché peut lui-même être du même côté que 5, par exemple tous les deux sont plus grands ici, tous les deux votent pour la même réponse, ou bien le nombre qui est caché peut être plus petit alors que celui qui vient est plus grand. Est-ce que ce type de congruence entre le nombre caché et le nombre visible a un effet? Eh bien, la réponse est oui. Sur la diapositive suivante, on voit une première démonstration simplement fondée sur la mesure des temps de réponse du sujet. Combien de temps faut-il au sujet entre le moment où il voit le chiffre apparaître sur l'écran et le moment où il ferme le circuit en cliquant sur un bouton de réponse? Vous avez ici le temps en abscisse, c'est la distribution des temps de réponse, et vous voyez que l'ensemble de la distribution est shifté, déplacé vers la droite ici pour les essais incongruents, c'est-à-dire que la personne répond plus lentement lorsque le nombre qui est caché, qu'elle n'a pas vu, est incompatible, n'est pas de la même grandeur que le nombre qui est visible. C'est un effet très significatif. Vous voyez, pratiquement l'ensemble des réponses ici ont l'air d'être affectées avec un ralentissement de l'ordre de 25 millisecondes, donc qui n'est pas du tout négligeable. Hein, c'est de l'ordre de 5% ici sur les réponses, ou 4%. Nous avons utilisé les méthodes d'imagerie cérébrale sur la diapositive suivante pour essayer de démontrer qu'il y avait des activations qui étaient liées à cette présentation inconsciente. Et ici, sans entrer dans le détail de cette diapositive dont je suis bien conscient qu'elle est un petit peu compliquée, vous allez pouvoir avoir l'idée qui est qu'on s'intéresse avec l'IRM fonctionnel à ces régions qu'on appelle motrices, puisqu'elles commandent la main qui détermine la réponse. Vous voyez que ces régions motrices, on peut les voir s'activer. Ici, on voit le profil de la réponse en fonction du temps. Et on voit par exemple que la région gauche qui est ici s'active plus lorsque la personne répond avec la main droite que lorsqu'elle répond avec la main gauche. Donc on peut, par cette méthode, avoir un index d'activation du cortex moteur qui va préparer la bonne réponse, celle qui va conduire le sujet à fermer son circuit. Voilà. Et cet index, il est calculé ici par cette formule un petit peu compliquée, on le voit ici, c'est un index en fonction du temps, de la montée du débit sanguin, du côté du cortex moteur qui va commander la main qui fait la réponse. Et alors on voit que cet index, ici, est plus élevé. Donc il y a un vote supplémentaire, si vous voulez, dans le cortex moteur, lors des essais congruents par rapport aux essais incongruents. Autrement dit, il y a un petit surcroît d'activation, y compris dans les régions motrices, lorsque un nombre caché conduit à amorcer, si vous voulez, de façon inconsciente, une réponse. Ici, on n'a pas une résolution temporelle très bonne, puisque vous voyez que c'est en secondes, c'est la montée du débit sanguin qui met, je vous l'ai dit, à peu près 5 ou 6 secondes à monter. Hein. La diapositive suivante vous montre le même résultat avec l'autre méthode, la méthode d'enregistrement des potentiels évoqués, donc de l'activité électrique du cerveau. Cette fois-ci, on a donc l'activité électrique en fonction du temps, au-dessus exactement des mêmes régions, avec toujours l'idée qu'un pic positif ici implique une préparation de la bonne réponse, celle qui est le clic sur le bouton correct pour le nombre visible. Eh bien, on voit que ici c'est l'appui sur le bouton de réponse, et on remonte le temps en arrière, on voit qu'il y a ce pic positif qui est le fait que le sujet répond correctement. Mais avant, et cette fois-ci les deux sont bien séparés dans le temps, on voit qu'il y a une différenciation entre nos essais congruents et nos essais incongruents. Lorsque le nombre caché vote pour la mauvaise réponse, on est capable de mesurer ce vote dans le mauvais sens ici, donc vers le bas, lors des essais incongruents, et dans le bon sens, lors des essais congruents. Donc on est susceptible de mesurer directement une activation qui est liée à un traitement inconscient. Et vous voyez que cette activation, elle est très loin dans le système. Elle est directement dans les aires motrices. Cela veut dire que le chiffre qui a commencé son trajet sur la rétine du sujet a traversé toute une série de représentations qui étaient sur le schéma tout à l'heure. Il a été identifié, sa quantité a été représentée et finalement, à travers les instructions qu'on a données au sujet, il a conduit à une activation du système moteur. Peut-on voir directement ces activations? La diapositive suivante vous montre la méthode qu'on a utilisée pour les voir directement, les activations intermédiaires, si vous voulez. C'est une méthode simplement de répétition. Vous voyez qu'il y a certains essais où le nombre qui était caché répétait exactement le nombre visible, donc 9 suivi de 9, par exemple, éventuellement dans des notations différentes, hein, l'un en toutes lettres ou l'autre en chiffres. D'autres essais étaient des nombres non répétés, donc le nombre caché pouvait être 6 et la cible 9. Vous voyez que dans les deux cas, ça vote pour la même réponse, donc on n'est plus en train de regarder l'effet de réponse à proprement parler, mais simplement la répétition de la quantité. Est-ce qu'il y a des réductions d'activité lorsqu'on voit deux fois le même nombre par rapport au cas où on doit traiter deux nombres différents? Eh bien, la réponse est oui, la diapositive suivante vous le montre très clairement. Exactement dans la région pariétale dont on parle depuis le début, qui est impliquée dans la représentation des quantités, il y a une réduction d'activité qui conduit à donc moins d'activation cérébrale lorsqu'on voit deux fois le même nombre que lorsqu'on voit deux nombres différents. Donc les essais à quantités différentes, qui sont ici en jaune, conduisent à plus d'activité. Simplement, quand j'ai dit qu'on voit deux nombres différents, je n'aurais pas dû dire ça parce que la personne, physiquement, ne voit qu'un seul nombre. Consciemment, elle n'a la sensation de ne voir qu'un seul nombre. Mais la présentation subliminale d'un autre nombre qui peut être identique ou différent conduit à un changement d'activité dans la région même que l'on postule être concerné par le traitement des quantités. Donc c'est une démonstration tout à fait directe qu'une présentation inconsciente peut influencer le traitement conscient. Et cela valide, dans une certaine mesure, dans ce domaine très restreint de l'intuition numérique, cette intuition d'Henri Poincaré que des calculs peuvent s'effectuer de façon inconsciente. Nous ne connaissons pas encore les limites de cet effet. Il serait très intéressant de poursuivre ces expériences, et c'est ce que nous faisons, pour essayer de comprendre quelles opérations sont susceptibles d'être faites inconsciemment et lesquelles ne le sont pas. Il est clair que lorsqu'on va aller à des opérations à plusieurs chiffres, je ne m'attends pas à ce que ce soit faisable de façon complètement inconsciente. Probablement, il s'agit uniquement d'opérations très automatiques ou automatisées qui sont susceptibles de s'exécuter, et c'est ce que nous allons tester. La diapositive suivante vous résume donc certaines propriétés de ce système pariétal, ici, que l'on voit en couple. Je vous ai déjà montré cette diapositive qui nous montre l'état du système lorsqu'on approxime. Cette diapositive vous montre simplement que ce système est extraordinairement reproductible. Finalement, dès qu'une personne, même unique, effectue des calculs, nous sommes capables de mesurer avec l'IRM fonctionnel l'entrée en activité de ce circuit. Il est présent chez tous les individus qu'on a testés pour l'instant. Il est toujours au même endroit, avec une certaine variabilité interindividuelle, bien entendu, puisque cette région anatomiquement est un petit peu variable. Mais à l'intérieur de quelques millimètres de variation, on est capable de le retrouver d'un sujet à l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose de très reproductible. Et je prétends que c'est ça qui nous permet d'avoir une intuition des nombres, qui nous permet de comprendre simplement les noms de nombres. Alors, l'une des démonstrations du côté indispensable de ce système nous est fournie par les patients qui ont des lésions cérébrales. On n'a pas conscience d'avoir un tel système. On n'a pas conscience que notre cerveau est en train de faire un calcul complexe lorsqu'on entend le mot 3 et qu'immédiatement on pense à la quantité correspondante. Mais ces patients, eux, ont perdu, à la suite d'une lésion, d'un accident vasculaire dans la région pariétale, cette intuition des quantités. Et ce qui leur arrive est tout à fait étonnant. Uniquement dans ce domaine restreint des nombres, ils perdent la capacité de calculer, mais surtout ils perdent la capacité de comprendre ce que sont les nombres et réellement ce qu'ils veulent dire. Alors, la diapositive suivante vous montre un résumé d'un tel patient que nous avons étudié avec le docteur Laurent Cohen à la Salpêtrière. Il s'agit d'un patient qui a subi un accident vasculaire de la région pariétale inférieure et il présentait toute une série de déficits dans des tâches qui impliquent l'accès aux quantités numériques. Par exemple, dans des soustractions extrêmement simples du type 6-3, il faisait 75% d'erreurs, y compris des réponses tout à fait aberrantes du style 6.3 égale 7. Je dois dire qu'il était simplement complètement perdu, il me disait lui-même, je ne sais plus ce que c'est qu'une soustraction, je ne sais plus ce qu'il faut faire, je ne comprends plus. Même chose pour la comparaison dans une moindre mesure, mais surtout pour ce qu'on appelle la bisection de nombres. Qu'est-ce qui tombe entre 4 et 8, par exemple? 3. Qu'est-ce qui tombe entre 2 et 4? 6. Vous voyez, une espèce de perte totale de ce que ça veut dire qu'un nombre tombe entre deux autres. Le patient nous le disait lui-même. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour un nombre d'être entre deux autres. Pour comprendre que ce mot « entre » s'applique à des nombres, il faut avoir cette espèce de carte spatiale qui nous permet de positionner les nombres. Et le patient, ayant perdu cette représentation, ne comprenait pratiquement plus la question. Il la comprenait par contre tout à fait bien en termes généraux et en particulier lorsque ça ne portait pas sur les nombres. Donc par exemple, trouver le milieu de deux lettres, qu'est-ce qu'il y a entre B et D? Trouver le milieu de deux jours de la semaine, qu'est-ce qu'il y a entre mardi et jeudi? Ce type d'opération ne lui posait aucune difficulté. Uniquement, le domaine des nombres était affecté. Et même dans le domaine des nombres, on voit que certaines choses étaient préservées. La lecture et l'écriture des nombres étaient intactes. La récitation de séries numériques automatiques du type 2, 4, 6, 8 était intacte. Et les multiplications, il était capable de les réciter de mémoire. 3 fois 9, 27, aucune difficulté. Vous voyez que tout ce qui est une composante verbale automatique fondée sur les mots était intact. Par contre, le sens, la compréhension était déficitaire. La diapositive suivante illustre le fait que ce type de déficit de l'intuition numérique existe même chez l'enfant. Et c'est, je dirais, un domaine qui est en pleine expansion actuellement, un domaine de recherche tout à fait étonnant. Il existe des enfants qui ont des dyscalculies développementales aussi sévères parfois que celles que je viens de vous décrire chez l'adulte, mais qui ont ça depuis la naissance et qui ont depuis toujours été incapables de développer une bonne compréhension de ce que sont les nombres et ce que c'est que l'arithmétique. Ici, vous avez l'exemple d'un tel patient qui a été publié par nos collègues américains. C'est un sujet tout à fait brillant qui a été identifié à l'université. Il a une thèse de psychologie. Il est tout à fait à l'aise dans le langage. Il a un QI très supérieur à la moyenne. Mais dans le domaine du calcul, il est absolument épouvantable, tout à fait incapable de faire des calculs. Et nos collègues ont essayé d'utiliser l'imagerie à nouveau pour essayer de déterminer s'il y avait des anomalies dans le cerveau. L'IRM standard, c'est-à-dire l'anatomie du cerveau, a l'air normale. Cette image ne montre rien de particulier. Le cortex a l'air en place, la substance blanche également. Par contre, lorsqu'on utilise une technique métabolique qui permet de regarder par spectroscopie, par IRM, différentes molécules, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une désorganisation qui apparaît ici comme un trou, hein, en vert dans ces images, de différentes molécules, qui toutes sont déficitaires dans la même région, qui est la région pariétale inférieure dont on parle depuis le début de cet exposé. Donc, très certainement, cet enfant a eu une anomalie de la migration neuronale, probablement avant la naissance. Ça a conduit à une mauvaise organisation de cette région cérébrale dès le départ. Et, chose tout à fait surprenante, cette désorganisation, malgré un environnement familial supérieur à la moyenne, malgré des rééducations importantes, toutes ces rééducations n'ont pas permis de compenser ce déficit qui est resté présent. Il y a donc une région cérébrale ici qui joue un rôle tout à fait crucial dans l'intuition des quantités et qui, d'une certaine manière, ne peut pas être remplacée. Alors je voudrais postuler que cette région, finalement, fait partie de ce que les philosophes des mathématiques ont appelé les fondements de l'arithmétique. Si nous sommes capables de comprendre ce que c'est qu'un nombre, si nous sommes capables de développer un système d'arithmétique, et évidemment de le raffiner à l'infini, d'en faire une construction culturelle qui traverse les siècles, eh bien c'est parce qu'au départ, notre cerveau, le cerveau du tout petit enfant, est capable de comprendre ce que sont les nombres, et ceci parce que notre cerveau, en particulier dans la région pariétale, a une préadaptation pour enregistrer ce paramètre du monde extérieur qu'est le nombre. Sur la diapositive suivante, on voit un petit bébé qui peut être soumis également à ces méthodes d'enregistrement d'électroencéphalographie. On voit bien que ça n'est pas douloureux, hein, ça c'est assez clair ici. On est en train de faire ces expériences actuellement avec Ghislaine de Van Lambert, mon épouse, et d'autres chercheurs dans le monde entier ont conduit des recherches sur les très jeunes enfants sur un plan comportemental, et toutes ces recherches, qui se comptent maintenant par dizaines, montrent que dès la première année de vie, les enfants disposent de compétences arithmétiques qui ne sont pas sans rapport avec cette intuition du nombre. On ne sait pas encore si c'est la région pariétale qui les sous-tend, mais c'est l'hypothèse que nous faisons, et c'est ce que nous essaierons de démontrer avec cet équipement ici. Mais on sait déjà que les enfants sont capables de voir des ensembles d'objets et d'en déterminer le nombre, de voir la différence entre deux objets et trois objets, de faire des calculs tout à fait élémentaires. Par exemple, s'il y a un objet et j'en cache un deuxième derrière un écran, à ce moment-là, il doit y en avoir deux à la fin. 1 plus 1, donc, égale 2. C'est une sorte de compétence tout à fait primaire qui est présente chez le bébé des 2 mois. Donc, vous voyez, il y a là une compétence précoce qui est réellement numérique. Hein, dans ces expériences, on pratique toutes sortes de contrôles pour s'assurer que c'est bien le paramètre de nombre et pas d'autres paramètres comme la densité, la taille des objets, etc., qui expliquent le comportement. On peut donc démontrer qu'il y a déjà un sens du nombre qui est présent si tôt. Et s'il est présent si tôt, ça veut dire qu'il y a probablement dans le cerveau une base génétique derrière cette compétence précoce pour les nombres. Il y a probablement donc une préadaptation. Et si, qui dit base génétique dit évolution, qui dit évolution dit probabilité qu'il y ait des précurseurs chez d'autres animaux que chez l'homme, et la diapositive suivante l'illustre sans rentrer dans le détail. Il y a également toutes sortes d'expériences qui portent sur le chimpanzé comme ici, mais également sur toutes sortes d'autres espèces comme le rat, le pigeon, le dauphin, le perroquet, qui démontrent que là aussi, toutes ces espèces animales ont des compétences numériques très proches finalement de ce qui a pu être démontré chez le bébé. Ces compétences concernent l'évaluation des grandeurs numériques, lorsqu'on voit ici un ensemble d'objets, par exemple trois morceaux de chocolat, le singe est capable de faire la différence entre trois et deux morceaux de chocolat, et qui concerne aussi des opérations très simples. Par exemple, ici, le chimpanzé est capable, il a le droit de choisir entre les deux plateaux de gauche et les deux plateaux de droite, ici, et évidemment, il a envie de choisir le plateau sur lequel il y a le plus grand nombre de morceaux de chocolat. Pour ce faire, on peut montrer qu'il effectue une sorte de calcul approximatif de la somme des morceaux de chocolat qui sont disposés dans ces deux puits ici, et de la somme des deux autres, et une comparaison pour déterminer lequel est le plus grand. Et spontanément, le chimpanzé va choisir le plus grand. Ce qui est intéressant, cette expérience peut être réalisée absolument sans entraînement. En fait, avec nos collègues américains, Mark Hauser, nous savons maintenant que même dans la vie sauvage, chez des singes en liberté, il y a cette compétence basique pour choisir le plus grand de deux nombres, et on peut montrer à nouveau que c'est bien le nombre et pas d'autres paramètres. Donc ces compétences numériques présentes très précocement suggèrent que le cerveau de l'homme a évolué pendant longtemps dans un environnement dans lequel il était utile d'extraire le paramètre de nombre. Ce paramètre du nombre est internalisé dans notre cerveau, il fait l'objet de circuits spécifiques, et je prétends que ce sont ces circuits spécifiques qui nous permettent d'appréhender le nombre dans le monde extérieur et d'en faire des théories mathématiques. Je voudrais terminer mon exposé, et je crois qu'il y a une dernière diapositive cosmétique, sur lequel je voudrais simplement explorer avec vous les conséquences de cette approche biologique des compétences mathématiques. Je pense qu'il y a deux écueils qu'il faut absolument éviter. Le premier écueil, c'est celui d'un réductionnisme naïf qui dirait, oui, on peut passer directement de l'organisation d'un réseau de neurones aux compétences mathématiques les plus élaborées. J'ai essayé de vous montrer qu'on pouvait éviter cet écueil, qu'il fallait absolument l'éviter, que la seule manière de passer d'une organisation biologique à une compétence mathématique, c'est de considérer sérieusement les différents intermédiaires. Et les différents intermédiaires sont la psychologie, la mesure correcte du comportement, l'imagerie cérébrale, qui nous fournissent des ponts, finalement. Et il n'est pas question d'une réduction directe entre 3 cm cubes de cerveau supplémentaire chez Einstein et son génie mathématique. Non, il est clair que même si l'on suppose qu'il y a une organisation biologique derrière les mathématiques, cette organisation biologique n'est pas fixe, on n'a pas besoin d'adhérer à un fixisme naïf, elle est influençable par l'éducation. Toutes les images d'activation cérébrale que je vous ai montrées aujourd'hui sont très certainement au moins autant le résultat d'une éducation que le résultat d'une organisation innée. Il y a interaction, bien entendu, entre les deux paramètres. Donc, les expériences qui portent sur les chiffres arabes, qui sont évidemment des organisations culturelles totalement arbitraires, montrent bien que ces activations sont liées à l'apprentissage d'un code. Et ce code n'a pu être appris que par l'éducation. Donc gardons-nous d'un réductionnisme naïf, ce n'est pas parce qu'il y a un substrat biologique qui n'est pas influençable par l'éducation, et en particulier dans le cas des enfants qui ont subi des lésions précoces, que ce soit liées à la prématurité, à l'exposition à l'alcool in utero, à la migration neuronale qui ne se fait pas correctement pour des raisons génétiques, eh bien ces enfants-là, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a une baisse biologique à leur dyscalculie qu'on doit être fixiste et penser que rien ne peut être fait. Non. Moi, je souffre d'une maladie, je suis myope. Bon, je peux guérir cette maladie instantanément en chaussant une paire de lunettes. Je ne saurais préjuger de ce que vont donner les recherches sur la dyscalculie, mais rien n'interdit de penser qu'il sera possible de trouver des stratégies de rééducation ou de compensation des déficits qui prendront en compte les circuits qui sont restés intacts chez ces enfants. Et donc, biologie ne veut pas dire fixisme. Je pense que c'est particulièrement important de souligner ce point. Alors, inversement, deuxième point, chez les grands mathématiciens, qui dit substrat biologique au déficit mathématique ne veut pas dire substrat biologique aux différences individuelles et en particulier aux compétences mathématiques. Je ne crois pas que les grands mathématiciens naissent avec une plus grosse bosse des maths que les autres. Je crois au contraire qu'il y a un effet de l'éducation qui est tout à fait patent dans ce domaine. Toutes les biographies des grands mathématiciens montrent qu'il y a un effet d'apprentissage, qu'il y a une passion pour les mathématiques qui les conduit à consacrer des journées entières, jour après jour, à leur éducation dans ce domaine. Et nous avons énormément de données qui montrent que cette passion, cette éducation, cet entraînement conduisent évidemment à des modifications des représentations mentales et à une amélioration finalement de la compétence, de l'automatisme dans le domaine des mathématiques. Donc là aussi, la base biologique ne veut pas dire que ce qui différencie les individus, c'est une différence innée, présente dès le départ. Je pense que l'interaction entre la structure du cerveau et l'éducation fournit un embryon d'explication à la présence de génie mathématique chez certains mathématiciens. Et je vous remercie.